C'est vrai. Je me rappelle avant, quand c'était le jour où Stéphane travaillait le vendredi, on disait, oulala, c'est dur de chanter sans musique. Ben, vous avez vu là? Formidable, hein? On va lire Romains chapitre 4, verset 17, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose, vous n'allez même pas le croire. Nous avons envoyé par la poste un paquet urgent en payant je ne sais plus combien. Combien on a payé? 104 euros pour envoyer à un malade qui a une plaie énorme en Afrique, notre frère Nicolas Savadogo. Eh bien, 2 mois après, il l'a reçu. Il l'a reçu aujourd'hui. Merveilleux, hein? C'est bien. Oui. Formidable. Alors, comme entre-temps, on voyait que ça traînait trop, on a envoyé par Chronopost un petit peu plus cher, mais c'est 260 euros. Donc maintenant, il se retrouve avec des médicaments. Je dis, tu peux encore avoir un autre accident si tu veux, tu as tous les médicaments qu'il faut. Il y a un nom que Dieu me garde. Voilà. Non, c'est pour dire, voyez, des fois, c'est vrai que, comme on chantait tout à l'heure, notre vie s'épanouit dans les lieux arides. Oui, ben. C'est vrai, mais il faut y passer quand même, c'est pas toujours rigolo. Mais le Seigneur est avec nous, et puis vous voyez quand même, ben, sa plaie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Hein. Et maintenant, il me demande de prier parce que l'ambassade de France, ils ont une nouvelle tactique maintenant, c'est-à-dire qu'il faut demander un rendez-vous pour pouvoir déposer les papiers, pour pouvoir avoir les visas. Et ils vous accordent le rendez-vous s'ils veulent, ou ils ne vous l'accordent pas, ou ils vous l'accordent, puis après ils vous disent « mais c'est trop tard, il fallait venir avant ». C'est terrible, c'est pire que si c'était le... Enfin, bon, c'est bientôt les élections, faites attention pour qui vous allez voter. Romains chapitre 4, verset 17. Où est-ce que c'est ce verset? Ah oui, juste après le 16. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, c'est Abraham, hein? Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen, c'est vrai ça. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout à l'heure, je parlais avec un frère au sujet de la sainteté, mais où est ma sainteté? Eh bien, il l'appelle même s'il n'y en a pas. C'est lui ma sainteté. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est lui. C'est lui. Tout dépend de lui. Tout dépend. Toutes choses dépendent de lui. Et notre grâce, notre cadeau, la grâce qu'il nous a faite, elle dépend de lui fondamentalement. Fondamentalement. Quand vous faites les fondations, très important, eh bien les fondations, c'est lui. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, et qui le crée à partir de rien, c'est lui qui nous a fait grâce. Il fait revivre les morts, et c'est ce que nous étions. Vous connaissez le contexte, vous allez voir. C'est ce que nous étions, morts dans nos péchés. Et il nous a sauvés. Il nous a appelés, nous, des rien du tout, nous, des morts, nous, des inexistants. Il nous a appelés à la vie, il nous a sauvés. Mais pour tout ça, pour nous sauver, est-ce qu'il a attendu de notre part une initiative ou une action qui pourrait contribuer à notre salut? Est-ce qu'il a attendu de voir si il n'y aurait pas quand même en nous quelque chose sur lequel il puisse mettre le levier pour faire lever ce salut? Non, rien, rien, frères et sœurs, rien. L'initiative de la grâce, elle vient de Dieu seul, de Dieu seul. Elle est son initiative gracieuse, pour faire un jeu de mots. Frères et sœurs, cette croyance, elle est à la base même du protestantisme. Ce sont nos ancêtres qui ont protesté, pour ceux qui ont vu le film, sur le reportage sur Luther et sur Calvin, ceux qui ne l'ont pas vu. Ouh ! On l'a enregistré, il faut le voir, il faut voir, c'est nos racines, mes frères et sœurs. Cette croyance est à la base même du protestantisme. C'est pour avoir protesté contre un salut qui pouvait être acheté ou gagné à force de bonnes œuvres, de bonnes choses, de sainteté ou que sais-je. C'est ce qui a poussé les réformateurs à lutter contre cette hérésie du salut qui n'est pas une pleine, une totale, une complète grâce de Dieu, une action gracieuse de sa part. Non, messieurs, le salut ne se paye pas par des bonnes œuvres. Vous en êtes arrivés au point de dire qu'il faut payer même pas avec de l'argent le salut. Et c'était ça, on appelait ça des indulgences. Puis on pensait que c'était fini. Puis vous avez vu la grande... enfin, 16, là. Il ressort les indulgences. Alors, les catholiques, eux, ils ont fait une contre-réforme, ils ont appelé ça... C'est la contre-réforme, parce que comme ils ont vu que ça marchait, la réforme, ils ont dit, on va faire aussi quelque chose, nous, de notre côté. Et alors, ils ont appelé, non pas l'élection, ou la prédestination, le salut par grâce, mais ils ont trouvé un mot qui est très joli, la providence. Je me rappelle, j'ai été opéré à la clinique de la Providence, à l'hôpital de la Providence, à Vevey, pour l'appendicite et les amygdales. C'était des bonnes sœurs. Je ne sais pas si c'était catholique ou protestant, je ne sais pas. Mais elles étaient gentilles, ces femmes, gentilles. Elles m'ont mis un masque, vous savez, avec l'éther, comme ça. Et puis il y en avait une, c'est une Suisse-Allemande, mais ça m'est resté pendant des années. Alors elle disait, quel brave garçon. C'est la providence. Pour moi, c'est, ça signifie garçon. C'est une horreur, la providence. Bon, enfin, ils m'ont bien soigné, puis elles étaient très, très gentilles. Mais la Bible ne parle pas de providence, elle parle d'élection. La providence, d'après le Larousse, c'est la suprême sagesse de Dieu par laquelle il gouverne toute chose. C'est très bien. Mais au plus loin, théologiquement parlant, la providence, quand vous mettez une majuscule, ça devient Dieu en personne. Comme ça. Hein. C'est Larousse qui le dit. Hein. Ce serait le petit Robert encore, on douterait, mais Larousse. De nos jours, les protestants n'aiment pas beaucoup qu'on leur serve la doctrine au sujet de la prédestination et de l'élection. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils se sont rangés du côté du monde et ils préfèrent parler, n'est-ce pas, du libre arbitre. Alors nous, comme on est nés dans cette ambiance, on pense que voilà, c'est très protestant le libre arbitre. Ben pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est du monde, c'est des idées philosophiques, c'est des idées du monde. Et les protestants sont rangés de ce côté, c'est-à-dire ils ont descendu d'un cran. Et quand on leur rappelle que les pères du protestantisme, c'était surtout sur cela qu'ils insistaient, la grâce par prédestination, oh alors là, ils n'aiment pas ça beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ils disent, croire en la prédestination, c'est croire au déterminisme. Déterminisme. C'est croire que rien n'est dû au hasard. C'est croire que tout est nécessité une fois pour toutes. C'est pas bon, on peut pas croire ça, pas grand-chose pareil. Et ils terminent, mettent le point final en disant « Et si tout est déterminé d'avance, comment peut-on encore parler de liberté pour l'être humain ?» Vous voyez qu'il y a une révolte. C'est plus du protestantisme, c'est de la révolte. Et puis, si le salut n'est réservé qu'à certains seulement, la grâce qui choisit certains au détriment d'autres n'est pas juste. Vous voyez que c'est de la révolte. Est-ce que c'est encore une grâce? Et puis encore des gens plus hardis qui disent « Comment peut-on parler de la grâce de Dieu quand on voit le monde dominé par le mal dans lequel il brille cruellement par son absence ?» Vous voyez que c'est bien de protester contre l'erreur. Mais il faut savoir s'arrêter un moment. Là, ça devient de la révolte. Ça devient de la rébellion contre Dieu. Les pères du protestantisme n'étaient pas comme ça. Le mal, disent-ils, n'est-il pas la preuve de la non-existence de Dieu ? Ou, les plus modérés diront, en tout cas de son impuissance ou de son injustice. Mais ce n'est pas nouveau, déjà l'apôtre Paul était obligé de dire « Mais t'es qui toi pour juger Dieu ?» Il est libre de faire ce qu'il veut, avec un peu de terre, un vase d'usage vil, ou avec la même terre, un vase d'usage noble. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il a décidé de faire des vases pour les briser dans sa colère, il est libre de faire ça. Mais t'es qui toi pour juger ? Eux, ils veulent juger Dieu. C'est de la révolte. Quand on proteste contre l'erreur et qu'on ne reste pas spirituel, on tombe dans un excès et ça devient de la révolte. Frères et sœurs, ne nous épargnons pas l'effort de démontrer avec la Bible que Dieu est bon, que Dieu est juste et qu'il est tout puissant. Bon, alors, comme le préfixe « pré » le souligne, « prédestination », c'est une décision prise au préalable par Dieu. C'est la décision par laquelle il désigne d'avance ceux qu'il destine au salut. C'est ce que la Bible appelle généralement l'élection. Par un acte libre, parce que tu es libre, Dieu élit, choisit ceux auxquels il réserve le salut. Le mot élection est plus biblique que prédestination. Le mot prédestination se trouve, mais le mot élection se trouve beaucoup plus souvent. Maintenant, le mot providence, il signifie plutôt Dieu, dans sa sollicitude, pourvoit aux besoins de sa création. Il pourvoit aux besoins de ses créatures. Il prend soin d'elles. Il les dirige. Il les conserve. Il les protège. Il tient toutes choses dans sa main. C'est pourquoi rien ne peut arriver à ses créatures sans qu'il le veuille, dans sa souveraine puissance et souveraine bonté. Ça, c'est ce qui est dit par les catholiques qui ont, pour ainsi dire, inventé ce mot « providence ». Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais qui préfèrent ce mot « providence » à prédestination ou élection, parce que c'est un peu plus mou. Mais attendez, attendez, ça révolte aussi d'entendre « Dieu tient toutes choses dans sa main et il veille sur sa création, dans sa souveraine puissance et sa souveraine bonté. Bonjour les dégâts, quand vous allez ne serait-ce qu'au Burkina, sa souveraine bonté. » Il y en a qui se révoltent. Parce que ce n'est pas juste d'après les Écritures. Ce n'est pas juste d'après l'esprit des Écritures. Ni d'un côté, ni de l'autre. Il faut trouver... Vous savez, vous rappelez ce que le prophète disait, il ne suffit pas de marcher dans le chemin, mais il faut marcher au milieu du chemin. La Bible parle de ça dans Matthieu 10, 29, de la providence. Mais j'aime bien comme Jésus en parle. Il est magnifique. Écoutez, il dit... Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. Et j'aime que Jésus parle de ça en disant qu'il tient tout, tout, absolument tout sous son contrôle, mais qu'il en parle de manière un peu négative. Des oiseaux qui tombent, je ne vous parle pas des cheveux. Ça fait rire Simone, à tous ses cheveux. Tu as plus de grâce que moi alors. Dieu choisit, Dieu élit ceux qui sont sauvés et donc aussi ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est l'élection ou prédestination. Puis, il fait ensuite lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, c'est ce qu'il dit, et il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, et ça, c'est la providence. Matthieu 5, 45. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mettre que les deux ne vont pas ensemble. La prédestination, c'est un décret éternel de Dieu. Elle est là avant le début. Et c'est notre histoire qui la concrétise et ça sera à la fin que s'accomplira réellement, de manière ultime, terminée, cette élection. On en verra réellement le fruit. Et pour la providence, on peut dire qu'il en va de même. Mais elle s'inscrit donc dans la volonté de Dieu. Il n'abandonne pas sa création. Mais ne pas abandonner sa création, ça signifie quoi? Si on a reçu un journal qui dit « Comment Dieu parle-t-il au XXIe siècle ?» Et puis il y a une photo d'une jeune fille un peu éthérée comme ça. Et... quand j'ai vu la photo, j'étais en train de manger mon petit déjeuner ce matin. Comment Dieu parle-t-il au XXIe siècle? Il m'est revenu une réponse qu'avait donnée un pasteur quand on était une fois dans un séminaire. Il avait dit « Aux gens bêtes, ils parlent bêtement. » Si nous voulons réfléchir, si nous voulons avoir la tête vraiment sur les épaules, eh bien, il faut voir les choses comme Dieu les voit. Marc m'a prêté un bouquin d'un homme extraordinaire, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Bouvin. Boulevin. Et il raconte cette fameuse histoire qu'Osborne avait racontée il y a déjà au moins 15 ans en arrière, ou peut-être même plus. Vous savez, l'histoire de ce cheval, cet homme qui s'achète un cheval, et puis tout le monde dit « Ah, quelle chance tu as, c'est bien, tu as fait une bonne affaire, c'est super. » Et puis, mais qu'est-ce que vous en savez que c'est de la chance? Et puis ensuite, le fils de cet homme monte sur le cheval et il court, et puis voilà que le cheval se cabre, l'enfant tombe et se casse la jambe, et tout le monde dit « Ah, si tu n'avais pas acheté ce cheval, quel malheur, ton fils a la jambe cassée, il ne va pas pouvoir t'aider pour les moissons, mais c'est épouvantable, c'est terrible, quel manque de peau. » Et puis, mais qu'est-ce que vous en savez que c'est un manque de peau? Puis voilà que la guerre éclate et tous les jeunes gens partent à la guerre, sauf celui qui a la jambe cassée. Tout le monde dit, ah, quelle chance, il s'est cassé une jambe, il ne va pas à la guerre. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le bien, le mal, qu'est-ce que c'est? Comment juger l'action de Dieu? Comment? Alors quand on dit que Dieu n'abandonne pas sa création, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais souffrir, que tout va être bien. Vous voyez, le sens de la justice que Dieu a n'est pas le sens de la justice que nous avons. Parce que justement, il sait tout. Alors que nous, non. On a tendance à juger au coup par coup. Alors évidemment, ce n'est pas bien de se casser une jambe, mais quand ça peut vous empêcher d'aller à la guerre, c'est bien. Alors, ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la plupart des gens s'arrêtent là. Mais le verset continue, c'est Romains 8, 28, 30. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Certains sont connus d'avance, d'autres... Les autres, ceux qui ne sont pas connus d'avance, Dieu leur dira au jour du jugement, « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 23. Je crois que ça vaudrait la peine qu'on lise ce texte au sujet de Dieu qui fait concourir toutes choses ensemble à notre bien. Romains chapitre, qu'est-ce que j'ai dit, 8. Romains 8. Vous êtes sûr? 28-30, voilà, c'est ça. 8-28-30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Certains sont donc connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il n'a pas connus, c'est ceux qui sont contre nous. Enfin, ils croient qu'ils sont contre nous, mais ils ne sont pas contre nous, puisque même tout ce qu'ils peuvent nous faire de mal, ça concourt à notre bien, puisque nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Que pourront-ils me faire, en réalité? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Voilà, le mot est lâché, biblique, il devient biblique. Il les a aussi prédestinés. À quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de Jésus, il les a aussi appelés. C'est-à-dire qu'il y a eu une action dans le passé, il les a connus, donc nous vivions, nous existions, nos esprits existaient, il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son fils. Son fils, je vous rappelle que c'est Dieu qui est venu dans la chair, c'est-à-dire que maintenant il veut que nous devenions semblables à ça, il veut que nous soyons tels qu'il était, tels qu'il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. Mais est-ce qu'il l'a épargné? Est-ce qu'il n'est pas allé sur la croix? Ça paraît être un échec, et pourtant c'est la plus grande victoire que le monde a jamais vécue. Ceux qu'il a prédestinés dans le passé, il les a appelés. Il nous a appelés. C'est ce qu'il a fait. Il nous a appelés. Et nous avons répondu. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu sa voix. Les autres sont appelés aussi, mais... N'étant pas élus, ils ne reconnaissent pas sa voix. Frères et sœurs, ils ne sont pas programmés pour. Matthieu 22, 14 nous dit, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà ce que ça signifie. Tout le monde est appelé, mais qui est élu? Le signe, c'est ceux qui reconnaissent sa voix. L'élection a eu lieu avant, l'appel, c'est après, ça arrive. Voilà, c'est ici-bas, c'est dans l'histoire. L'élection, c'est hors temps. Maintenant, dans le temps que Dieu a créé, il y a l'appel. Et seuls les élus entendent sa voix. Jean 10, on va lire Jean 10. Jean 10. Vous me suivez? Jean 10, versets 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Tu n'es pas programmé pour comprendre. Qui c'était ces gens-là? Si vous lisez le texte un peu avant, vous allez vous apercevoir. Jésus venait de guérir un aveugle et les religieux lui font des tas d'histoires parce que c'était le jour du sabbat. Ils lui font des histoires à lui, ils font des histoires à ses parents, ils font des histoires à tout le monde, ils créent des problèmes. Et Jésus leur dit ça. Et ils ne comprirent pas. Un peu plus loin, ces mêmes religieux leur diront « race de vipères ». Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que c'était l'insulte à la mode, mais c'est parce que c'était vraiment la descendance du serpent. Revenons à Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, dans le passé éternel, il les a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Nous qui avons reconnu sa voix, il nous a justifiés. Ça signifie qu'il nous a rendus justes. Ce n'est pas parce que nous avons fait des choses justes, c'est parce que lui a fait la chose juste. Il a donné sa vie, c'était ce qu'il fallait, c'était le sacrifice juste. Abel avait fait le sacrifice juste, Caïn avait fait le sacrifice faux. Jésus a fait le sacrifice juste, celui qui fait que nous pouvons être pardonnés parce qu'il a été condamné à notre place. Les péchés que nous avons faits et que nous ferons, il les a portés et il met sur notre compte sa justice, sa pureté, sa sainteté et il met sur son compte notre saleté, nos péchés, toutes nos tares et tout ça. Et il meurt avec ses morts. Et il ressuscite. Pas avec. Il nous a justifiés, nous a rendus justes, purifiés, pardonnés. Écoutez bien maintenant. Vous qui écoutez sur Internet et qui êtes protestants, ou même les autres, écoutez bien quand même, écoutez bien. Luther, ce qu'il disait. Il disait, « Quant à moi, je confesse ceci, même si cela était possible, je ne voudrais pas recevoir un libre arbitre ou quelque possibilité de m'efforcer moi-même vers le salut. » C'est gonflé. Écoutez bien. Non seulement, il n'en veut pas, non seulement parce que je ne serais pas capable de résister à tant de tentations et de périls, à tant de démons qui nous assaillent, mais encore parce que même s'il n'y avait ni péril, ni tentation, ni démon, je serai constamment obligé de peiner en vue d'un but incertain et de frapper des coups dans l'air, car même si je vivais et faisais des œuvres jusqu'au jugement dernier, ma conscience ne serait jamais parfaitement sûre d'avoir assez fait pour satisfaire Dieu. Quelle que fût mon œuvre, en effet, il resterait dans ma conscience un scrupule. C'est pourquoi le diable, là il y a le diable. Le diable ne veut pas que vous croyez dans la grâce de Dieu. Il veut vous faire croire qu'il faut que vous fassiez des bonnes choses et que vous arrêtiez de faire des mauvaises, sinon vous allez être perdu. Là, le diable se déplace pour ça, parce que ça, c'est la chose la plus importante avant n'importe quelle autre chose. C'est la lutte directe contre l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la seule chose, c'est son seul recours, c'est la seule possibilité qu'il a de rendre nul le sacrifice de Jésus. C'est d'arriver à vous faire croire que sa grâce n'est pas suffisante. Il dit, mais maintenant, Dieu, Luther, il dit, mais maintenant, Dieu a enlevé mon salut à l'action de ma volonté et l'a confié à l'action de sa volonté. Il m'a promis de me sauver, non en vertu de mes œuvres, de mes efforts, mais en vertu de sa grâce et de sa miséricorde. Ainsi, je suis sûr et certain qu'il est fidèle et ne me mentira pas. Amen. Ah, amen. Là, on peut dire amen. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, dit Paul. Le mot gloire signifie poids. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné du poids. C'est difficile de vous ébranler parce que vous êtes lourds, de la lourdeur de Dieu quand vous êtes justifiés, quand vous vous croyez justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez du poids, il vous a donné du poids, il vous a donné de l'importance. Il répond à nos prières, il nous a confié le pouvoir de son nom, il nous a confié sa parole, il nous a donné le pouvoir de pardonner en son nom, il nous a donné le pouvoir de lier sur la terre, et si c'est lié par nous sur la terre, c'est tenu pour lier dans le ciel. Il nous a donné le pouvoir de lier ou de délier sur la terre, et si nous délions sur la terre, c'est délié dans le ciel. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Parce qu'il est en nous. Et c'est pure grâce, c'est pas parce qu'on sent bon, c'est pas parce qu'on est merveilleux, c'est son bon plaisir. Allez le comprendre avec l'intelligence humaine, on ne peut pas. Nous-mêmes, on est des fois mal dans notre peau, on ne peut pas croire que Dieu et sa sainteté viennent habiter en nous. Il nous a donné tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi par notre foi. Rien ne peut nous nuire. Il en est fait selon notre foi. Et notre foi, c'est un don de Dieu. Et la boucle est bouclée. Frères et sœurs, c'est pourquoi je dis, le libre arbitre, c'est une illusion pour ceux qui n'ont pas le pouvoir. C'est tout ce qui leur reste. Nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné. Vous êtes des dieux, et vous mourrez comme des hommes. Parole de Dieu. Je sais que ce message est une grande source de questions, mais il ne faut pas redouter les questions. Calvin disait, cette doctrine est non seulement utile, elle est utile. Il y en a, ça leur fait peur. À qui ça peut faire peur? À quelqu'un qui manque de foi. À quelqu'un qui n'a pas confiance. Il dit, oui, tu l'as dit, mais enfin, quand même, moi, j'ai tellement péché. Mais attends, tu as tellement péché, ça m'a fait mourir. Oh, mais je crois pas. Bon, ben, circule, il n'y a rien à voir. Cette doctrine est non seulement utile, mais elle est aussi douce et savoureuse. Vous voyez quand? Quand on leur met ça sous le nez aux protestants, ils ne parlent pas. Elle est douce et savoureuse au fruit qui en revient. Il parlait magnifiquement bien. Pourquoi? Comment peut-on dire que c'est une doctrine douce et savoureuse, alors qu'en général, ça fait hurler de rage tous les croyants qui disent « Non, et alors, moi, je ne veux pas être un robot. Ah non, moi, je ne veux pas être... Ah non, 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 moi, je veux être mon libre arbitre et tout. » Eh bien, elle est douce et savoureuse parce qu'elle souligne que ce n'est que grâce, par pure grâce, que nous sommes sauvés. C'est reposant. C'est savoureux. C'est délicieux. Calvin, il disait aussi, l'utilité de cette doctrine est donc claire. Elle glorifie Dieu et nous appelle à l'humilité. À l'humilité. Nous rappelant que nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons rien pour nous sauver nous-mêmes. Rien. Ça, c'est le plus grand coup de pied dans mon orgueil, dans mon ego, gros comme un camion. Eh bien, je l'accepte, Seigneur, vas-y, donne-le-moi ce coup de pied, parce que ça, j'aime, c'est tellement reposant. Qu'est-ce que j'aime ce Luther, qu'est-ce que j'aime ce Calvin, mais quels hommes extraordinaires. Frères et sœurs, il ne faut pas être timoré ou inquiet, il faut dire les choses clairement. Il y a trois élections, il y a l'élection du peuple d'Israël, du sein des nations, ils ont dit choisis deux du sein des nations. Et Dieu leur dit bien, c'est pas parce que vous êtes meilleurs, vous êtes même pire que les autres. Ensuite, il y a l'élection de certains et la répudiation d'autres au sein même d'Israël. Tout Israël n'est pas l'Israël de Dieu. Et puis troisièmement, finalement, il y a l'élection et la réprobation des personnes particulières, des juifs ou non, qui sont inscrites dans la Nouvelle Alliance. Voilà les trois élections bibliques. Alors, quand Dieu agit, quand Dieu parle, ça nous trouble parce qu'il ne parle pas comme nous. Quand il dit quelque chose, ça ne veut pas dire comme nous quand on dit quelque chose. Marc est arrivé tout à l'heure, on est tous venus le saluer. Tous on est venus saluer Marc. Mais est-ce que vous réalisez, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu salue quelqu'un? Regardez l'histoire de Jésus comme elle commence. Un ange envoyé de Dieu, Gabriel, arrive dans ce village, entre dans la maison, trouve cette petite jeune fille, tranquille, pépère, toute contente parce qu'elle est fiancée à un brave garçon, une fille sans histoire, gentille. Et l'ange lui dit, je te salue. Ça veut dire quoi? Je te salue. Les salutations. Salut. Tu es sauvé. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Elle a été faite. Dieu, quand il se manifeste, ça trouble. La Bible nous dit que Marie fut troublée par cette parole. Quand Dieu parle, ça trouble toujours. Pourquoi? Parce que il ne pense pas comme nous, son idée, sa conception de la justice et de toute chose, c'est pas la même chose que nous. Beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé. C'est à nous de nous élever jusqu'à lui. Mais pour nous élever jusqu'à lui, il faut s'abaisser. C'est ça le problème. Et Marie, voilà qui lui dit à Marie, je te salue. Qu'est-ce que ça peut bien signifier dans la bouche d'un ange? Je te salue. Ça signifie je te sauve. Je viens de la part de Dieu te saluer, te sauver. L'histoire de Jésus commence comme ça. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je suis avec toi. Et le Seigneur te le dit. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis ton sauveur, je te salue. Par contre, je t'interdis de dire salut à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Vous voyez que le mot « salut », c'est important. Je te salue. On peut dire « hello ». Bye bye. Évitez le mot « salut ». C'est tout bête, hein, je ne veux pas en faire une loi. Mais c'est pour vous donner le ton de la façon comment Dieu fait les choses. Cette parole, elle est entrée en Marie. Je te salue. Elle est entrée dans son oreille. Parole vivante. Elle est descendue dans son cœur. Tout allait être bouleversé dans la vie de cette petite jeune fille. Elle le pressentait, elle pouvait commencer à le comprendre. Mais elle a dit, je suis ta servante, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue. Elle allait au-devant des problèmes beaucoup plus graves qu'elle ne pouvait imaginer. Elle ne savait pas à quel point, mais elle savait que Dieu savait. Je suis ta servante. Alors confiante, elle dit, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Pas de discussion théologique, pas d'état d'âme. Alors cette parole qui avait été confiée à un ange, qui était sortie des lèvres de cet ange, cette parole est tombée dans l'oreille de la petite jeune fille, s'est rentrée dans son cœur et s'est germée. Et cette parole, elle est devenue chère, elle est devenue le salut pour toi. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi qui m'entends, je suis un envoyé ce soir. Un ange, peut-être terrestre sans aile, mais un envoyé. Le mot ange signifie envoyé. Et je te dis, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Laisse maintenant cette salutation s'établir en toi, germer dans ton cœur. Et ce salut, cette parole deviendra une réalité. Ça deviendra chair. Ça deviendra un poids inébranlable. Elle vivra, cette parole, au travers de vous, par vous. Elle se manifestera par vous. Et vous allez pouvoir aller vers d'autres, leur dire, je te salue. L'ange, voyant Marie troublée, lui dit, ne crains point Marie. Vous voyez bien qu'elle avait la trouille. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'elle était vierge? Alors, c'était pas la seule. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une fille de 20 ans est encore vierge, c'est presque, on va marquer ça dans le Guinness, quoi. À l'époque, elles étaient toutes vierges, sauf quelques-unes, très rares. Non, c'est pas parce qu'elle était vierge. Pourquoi est-ce qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu? Uniquement parce que Dieu, sur son trône, ça lui faisait plaisir. Ah bon? Oui, vous l'avez lu, je l'ai lu, et on va le relire. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Oh là là, cette page est déchirée tellement que je l'ai lue et relue et relue. C'est Paul qui parle, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » À qui dit-il cela ? À ceux qui ont été appelés, qui ont reconnu sa voix, qui ont été justifiés et qui ont reçu le poids, la gloire. C'est à eux, à des chrétiens qu'il écrit, comme vous. Ni plus ni moins qu'à lire la suite de cette lettre, vous allez voir qu'ils sont pleins de défauts, comme vous et moi. Mais ils ont été élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui, à l'image de son fils. Ben, on est en train de le faire. Hein. Un sculpteur, quand il choisit un morceau de marbre, il le choisit. Ce n'est pas encore la Vénus de Milo, mais il y travaille. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. J'espère qu'on va garder nos bras. Hein. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Ah, voilà encore le mot. Nous ayant prédestinés dans son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ça lui a fait plaisir de vous choisir, vous et moi. Plaisir, le plaisir de Dieu. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça veut dire qu'il s'est fait plaisir et il était tout content que les anges et tous les esprits et nous qui étions près de lui à ce moment-là, dans les temps éternels passés, eh bien, nous le louions, nous le glorifions et nous lui accordions toute la louange et tout l'honneur. Et c'était un très grand plaisir pour lui. Voilà. Vous voyez comment on est loin d'être comme Dieu, on ne pense pas comme Dieu. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin d'être glorifié? Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je n'aimerais pas qu'on fasse ça tout le temps à moi. Ben lui, oui, il aime, voilà. Pas comme nous, hein. Un petit peu quand même aussi, on aime bien quand on nous dit des choses gentilles. Enfin, du moins, on n'aime pas quand on nous dit des choses méchantes. Hein. En lui, nous avons la rédemption, le rachat, par son sang. C'est son sang, c'est tout. C'est pas nos bonnes œuvres. La rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce, c'est une richesse incommensurable, que Dieu a répandue abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour son bon plaisir, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire maintenant, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous avez vu le nombre de mots positifs chargés de puissance qui sont là? Sagesse, intelligence, mystère, bienveillant dessein, richesse de sa gloire, répandue abondamment, toute espèce d'intelligence. Frères et sœurs, recevez ces salutations. Recevez ces salutations. Recevez ce salut de Dieu. Je te salue. Je te salue. Recevez ce salut et dites, « Oh mon Dieu, merci pour ce salut. Je viens, Seigneur. Je viens avec toi pour toujours. Je t'aime. Et je t'aime parce que tu es parfait, tu es magnifique, tu es mon image, tu es ce que je voudrais être, c'est comme ça que je voudrais être. Je suis tellement loin d'être comme ça, mais bon, puisque tu me salues, tu ne me boudes pas, tu ne me fais pas la tête, tu m'aimes, ça te fait même plaisir que je sois avec toi. Alors Seigneur Jésus, je ne veux pas gâcher ta joie en faisant la tronche. Je veux être content, je veux me réjouir, puis je vais rentrer dans la louange avec les anges et puis te bénir, te glorifier, te rendre grâce. Je trouve même que c'est un petit peu bête parce que je suis tellement sale, je ne suis tellement pas comme je voudrais être, je suis tellement à côté de la plaque des moments. Mais Seigneur, si ça te fait plaisir que je sois là, mais je ne veux pas te gâcher ta fête, ben je vais rentrer dans cette fête et puis vous allez vous laisser prendre par la louange, et puis vous allez vous laisser prendre par le positif, et puis vous allez vous laisser prendre par Dieu, et puis tous les mauvais plis d'incrédulité vont disparaître. Recevez ce salut. Recevez ce salut. C'est la plus belle des choses. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Soyez comme la petite Vierge qui a dit, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Qu'il en soit fait selon ta parole. Mon Dieu, fais comme tu veux avec moi, ce que tu veux, ce que tu veux. Je suis prêt, vas-y. Si c'est des coups de pied, vas-y. Si c'est des caresses, vas-y. Je veux bien de tout. C'est pourvu que ça vienne de toi, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton salut. Merci pour ta salutation de ce soir. Merci, Jésus, de nous encourager à nous rapprocher toujours de toi avec cette simplicité. Comme cette petite jeune fille qui a dit, eh bien, je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole. Merci, mon Dieu, de nous aider à garder cette humilité, à garder les yeux fixés sur toi, à repasser dans notre cœur tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous as promis. Et de faire comme ce frère qui nous a précédé, Luther, en disant, je sais, je peux être sûr, maintenant j'ai confiance. Tu me l'as dit et je sais que tu ne me mens pas. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, tu ne vas pas nous tromper, tu nous as appelés, tu nous as justifiés, et maintenant tu es en train de nous travailler, tu nous donnes les armes pour que nous puissions faire notre part aussi, et nous la faisons avec simplicité, avec humilité, mais nous sommes sur ce chemin, et nous avons bien la volonté d'aller jusqu'au bout avec toi, mais Seigneur, des fois les forces nous manquent, alors viens à notre secours, soutiens-nous, fortifie-nous, garde-nous paisibles et tranquilles avec toi. Merci Jésus. Amen.